Bonjour Nouvelle Vie Châteauguay, vous allez bien ce matin? Salut, content de voir des visages que je connais et d'autres, encore plus content de voir des visages que je ne connais pas. Ça veut dire que ça continue à grandir à Châteauguay. J'entends tellement de bonnes nouvelles, principalement je travaille sur le site Longueuil, mais on entend continuellement, semaine après semaine, avec Pasteur Florian, des bons rapports de ce que Dieu est en train de faire à Châteauguay. Croissance, des nouveaux Seigneurs qui sauvent des gens et des gens qui s'ajoutent à l'église de Châteauguay également. Et en fin de semaine, comme il a été mentionné, c'est le week-end reset pour les ados. Plus de 400 ados qui sont réunis en ce moment à Sherbrooke et c'est la fête. C'est le party là-bas et on a vu, comme il a été mentionné, quelques petites vidéos. Il y a de l'effervescence de ce que Dieu est en train de faire parmi nos ados et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies également. Alors, pour tous ceux qui sont pas ados, merci d'être là ce matin avec moi. Et c'est une joie pour moi d'être avec vous, de pouvoir vous partager encore le message de la parole de Dieu. Et ce matin, je veux vous partager un message qui, je sais, va changer votre vie, va révolutionner votre façon de voir Dieu, votre façon de voir votre relation avec Dieu et va renouveler votre vision même de qui nous sommes, de qui vous êtes également. Et je vais parler sur la grâce extrême de Dieu. Extrême qui veut dire qu'il est étiré à sa limite de ce qui est possible. C'est vraiment à l'ultime grâce de Dieu. Et on va expliquer un petit peu, c'est quoi ça, la grâce de Dieu? Alors, je vous invite à lire avec moi un passage qui va apparaître sur les écrans, qui se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 9. Il y a 13 versets à lire, mais c'est vraiment intéressant. C'est un récit, une saga, en fait, qu'on va regarder ensemble, l'histoire d'un homme qui a un nom qui pourrait vous inspirer pour vos futurs enfants, Méphibosheth, ou peut-être pas. Mais on va regarder ensemble. Vous savez, toute la Bible nous parle de Jésus. Il n'y a pas seulement que le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus avec les évangiles, mais aussi, et bien entendu, tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament de Genèse jusqu'au prophète Malachie, nous parle de Jésus, nous prépare à la venue de Jésus. Alors, dans ce texte-là de 2 Samuel, où on va voir différents protagonistes, David, Méphibosheth, Saül, Jonathan, différents personnages qui sont là, et on va aller creuser ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, dans le texte, il est dit ceci. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ?» pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Je m'arrête quelques instants pour vous. Qui est David? Qui est Saül? Qui est Jonathan? Peut-être pour ceux qui sont pas familiers avec ce récit. David, c'est le roi d'Israël, le fameux roi, l'étoile de David qu'on a sur le drapeau israélien. Tout ce personnage qui a écrit énormément de psaumes, en fait, le roi David. Saül, c'est le roi qui l'a précédé. Et Jonathan, c'est le fils de Saül. Alors, juste pour nous situer un petit peu dans qui sont ces gens-là. Il y avait aussi un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Oui, ton serviteur. » Et le roi lui dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, c'est-à-dire boiteux des pieds déformés. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya donc chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. On mentionne cela parce que David, il s'est trouvé les gens. Et on a l'adresse. Et Méphibosheth, le fils de Jonathan, le fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth? » Et il répondit, « Oui, voici ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna, Méphibosheth se prosterna et dit, Mais qui suis-je? Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Donc, du monde en masse pour faire le travail. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. L'histoire de Mephibosheth, et si vous me permettez, je vais l'appeler Meph, parce que Mephibosheth, c'est un petit peu long à chaque fois, mais probablement que ses chums devaient l'appeler Meph. Alors, on va y aller comme ça. Mais c'est un mélodrame. L'histoire de Meph, c'est une tragédie pour ce jeune garçon, c'est une tragédie pour ce fils de roi, pour ce petit-fils de roi. Et ce petit garçon, Meph, en fait, il a été élevé au palais du roi, à Jérusalem. Il allait et venait dans les corridors, il pouvait aller sous le bureau ovale, il pouvait s'amuser avec les gens qui étaient là. Il était privilégié de par sa naissance royale. Et Meph avait tout ce qu'un petit garçon de 5 ans pouvait espérer avoir dans un palais royal. En fait, il était un prince. Il était vraiment un prince. Et un jour, il allait monter sur le trône d'Israël. Un jour, son avenir était préprogrammé à ce moment-là. Il allait vivre la vie de roi avec tout ce que ça implique de luxe et de possibilités. Et il pouvait peut-être même commencer à entrevoir, et son père, Jonathan, devait commencer à entrevoir aussi ce qui aurait pu être écrit dans la Bible, Saül régna sur Israël, puis il mourut. Jonathan, son fils, régna sur Israël, puis il mourut. Et Mephibosheth régna sur Israël. Alors, c'était une belle perspective d'avenir quand ton grand-père est le roi, quand ton père est appelé à devenir le prochain roi. Alors, c'était son plan de carrière qui était déjà tout tracé pour lui. Sa place était assurée, son plan de retraite était garanti. Il manquerait jamais de rien. Il allait avoir tous les serviteurs qu'il avait besoin et vivre toute l'aisance qu'un homme peut souhaiter à cette époque-là pour la vie des gens riches et célèbres. Mais, parfois il y a des mais dans la Bible qui nous font mal. Mais il arrive ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens, c'est que malgré les beaux plans de projet qu'on a, les beaux plans d'avenir que nous avons, le plan que nous planifions même pour nos enfants, les choses ne se sont pas passées comme il avait souhaité et comme on avait prévu pour lui. À l'âge de 5 ans, quand Meph a eu 5 ans, ça a été le drame. Un drame est survenu dans la famille. Son grand-père, Saül, et son père, Jonathan, sont partis pour une journée de travail normale, sont partis à la guerre. Sont partis à la guerre contre leurs éternels ennemis, les Philistins. Et pendant des jours et des jours, il y a eu la guerre sur le champ de bataille. Il y a eu des combats acharnés pendant des journées de temps. Le sang coulait à l'époque. C'était vraiment la guerre face à face. Les cris qui se font entendre sur le champ de bataille, dans les plaines, les hommes qui meurent d'un côté et de l'autre. Et étonnamment, les Philistins, en fait, ont été les plus forts dans cette bataille-là. Et Saül et Jonathan se sont retrouvés piégés au pied du mur et tous les deux sont tombés au combat sur le champ de bataille et sont morts. Saül, Jonathan, grand-papa Saül, le papa Jonathan meurt sur le champ de bataille. L'armée d'Israël a été vaincue et ça a été une des défaites les plus humiliantes pour le peuple d'Israël à cette époque-là. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Même s'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, la nouvelle s'est répandue que le roi est mort, que son fils est mort également. La nouvelle est arrivée jusqu'au palais royal où Mef, le petit garçon de 5 ans, est en train de jouer avec ses amis, est en train de jouer à différents jeux comme n'importe quel enfant de 5 ans fait encore aujourd'hui. Mais la famille royale allait être décimée. C'était le mouvement de panique au palais. Tout le monde s'est mis à paniquer parce que les Philistins ont tué le roi, ont tué le futur roi, vont arriver à Jérusalem et ils vont massacrer tout le monde. Alors, c'est la panique au palais royal. Et donc, ce qu'on apprend quelques chapitres auparavant, c'est que cet enfant de 5 ans va être pris par une nounou, une nourrice, qui va le prendre pour fuir avec lui. Et si on regarde un prochain texte dans 2 Samuel chapitre 4 et le verset 4, pour savoir ce qui s'est passé, en fait, on apprend pourquoi ce jeune homme, Mef, est perclus des pieds, pourquoi il boite des deux jambes. Il avait 5 ans lorsque la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan arriva au palais du roi. Sa nourrice le prit dans ses bras et s'enfuit à la hâte. Et comme elle précipitait sa fuite, Mephibosheth tomba et resta boiteux. Alors, on peut imaginer la scène, tous les détails ne sont pas donnés, mais on peut imaginer cette femme qui prend cet enfant de 5 ans, qui le monte soit sur un cheval, un âne ou sur un chameau et qui part à toute hâte. Et durant la course pour se sauver, Meph tombe en bas, se brise les deux jambes et les os vont se ressouder ensemble, mais avec une déviation dans ses jambes. Et tout le restant de sa vie, il va porter cette marque, ce rappel de cette chute et de ce drame de la mort de son père et de son grand-père également. Et il va boiter pour le reste de ses jours. Après sa fuite de cette façon, il y a un jeune berger, suite après la mort du roi Saül, il y a un jeune berger du nom de David que son grand-père Saül avait poursuivi pour le tuer presque toute sa vie. Il va monter sur le trône d'Israël à sa place. Et là, c'est une autre dynastie. La dynastie de Saül, Jonathan et Mephibosheth est maintenant terminée. C'est une autre famille, la famille de David qui monte sur le trône. C'est une autre dynastie qui s'installe. Et Mef, donc, lui, va demeurer isolé, caché, par peur d'être tué par le nouveau roi. Il faut vous dire ici que à l'époque, les partis d'opposition ne faisaient pas long feu. C'est-à-dire qu'un parti d'opposition était carrément éliminé. Il n'y avait pas d'élection, là. C'est s'il y avait la possibilité qu'un prétendant au trône puisse exister, c'était la mort. On l'éliminait, on vivait pas avec. On éliminait tout ce qui était de la famille royale précédente. Alors, Mef doit donc quitter, il va vivre reclus, il va vivre incognito, il va chercher à se faire oublier de tout le monde. Et là, il s'éloigne, imaginez la scène, il s'éloigne en boitant, il a les deux jambes brisées pour se rendre dans un petit village perdu qui s'appelle Lodebar. Et en hébreu, Lodebar veut dire le lieu du désert, le lieu de la solitude, le lieu du sans nourriture. Là où il n'y a pas de pâturage, c'est un lieu désert, c'est un désert dans le désert, c'est un non-lieu, c'est un endroit que tu veux pas visiter pendant tes vacances, loin de là, et c'est là qu'il s'en va vivre, un endroit qu'on ne visite pas, c'est un endroit caché. Donc, la scène est triste, et ça, c'est loin du rêve que Mephibosheth pouvait avoir pour lui-même, c'est loin du rêve de ses parents et de son grand-parent aussi, son grand-père. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants ici pour regarder Mephibosheth. Que représente-t-il? Regardons son visage pour quelques instants, parce que au-delà de ce drame qui est en train de se dérouler, il y a des êtres humains. Il y a des gens, des vraies personnes, comme nous ce matin. Et le visage de Mephibosheth ou de Mef est tout ce qu'il y a de plus humain, de ce qu'il y a de plus naturel aussi. Il est rempli, je regarde son visage, et pour moi, dans cette situation d'un jeune garçon, 5 ans, 10 ans, qui boit des deux pieds, qui vit dans un endroit désertique, complètement oublié de tout le monde, c'est un visage de souffrance. C'est un visage de peur. À chaque matin, est-ce qu'il y aura des soldats à la porte? Est-ce qu'on va me retrouver? Est-ce que le roi David, qui règne maintenant sur le trône, va me retrouver et va me mettre à mort? Est-ce qu'il y a un contrat sur ma vie, en réalité? Donc, la crainte, la souffrance, la déception, je vivais dans un palais royal avec tous les jouets, les bébelles que j'avais besoin puis qui étaient nécessaires pour ma vie. Et là, je suis à l'eau de bord dans le lieu de désert, là où il y a rien, il y a pas de réseau, il y a pas de Wi-Fi, il y a rien avec lequel je peux m'amuser. C'est de la tristesse, c'est de l'incertitude, et c'est un visage tellement triste, celui de Méphibosheth. Pour moi, Méphibosheth a le visage d'une multitude de gens encore aujourd'hui. Je vois son visage dans le visage de tellement de gens encore aujourd'hui, des gens qui fuient loin de Dieu, qui veulent rien savoir de Dieu, qui se sentent coupables même par nature, qu'ils ont peur de la colère de Dieu à cause de leurs actions, à cause de leurs pensées ou par leur lien de sang. Ils sont la lignée d'Adam, ils sont des fils d'Adam, des filles d'Ève, et l'humanité a chuté. L'humanité a chuté, elle est tombée, et la vie de l'humanité, vous avez juste à regarder les nouvelles si vous avez besoin de vous en persuader, mais la vie de l'humanité est boiteuse aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul va écrire plus tard, en parlant de cette situation de l'humanité, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants destinés à la colère ou des enfants de colère comme tout le monde. Nous étions des enfants destinés à la colère, nous étions de leur nombre et nous voyons à ce moment-là Dieu comme le Dieu vengeur, celui qui cherche à leur faire du mal, qui est le responsable pour tout le mal et toute la souffrance qui arrive dans le monde et qui nous arrive également à nous-mêmes. Et combien de gens aujourd'hui rejettent Dieu, veulent bien savoir, ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Voyez-vous, les êtres humains ont été créés par Dieu pour un grand plan et pour régner sur la création de Dieu. Dieu avait des projets d'avenir glorieux pour tous les êtres humains. Dieu avait un plan lorsqu'il a créé les premiers êtres humains. Il avait un plan merveilleux et glorieux pour l'humanité. Mais on le sait, le rêve s'est évanoui à cause d'une chute également. Une chute qui nous est racontée dans le livre de la Genèse, lorsque nos premiers parents, les premiers humains, ont désobéi à Dieu. Devant un seul commandement, ils ont enfreint et violé ce commandement dès le début. Une chute lamentable qui nous a entraînés dans une vie boiteuse, une humanité qui boite dans sa démarche. Et le péché est venu gâcher notre présent, mais aussi notre avenir. Et aujourd'hui, à l'exemple d'Adam et Ève, notre génération se cache derrière une foule de décors, derrière une foule de masques également, pour tenter d'éviter Dieu. On se dit, l'éducation, c'est un problème d'éducation. Le problème de la société, là, c'est un problème d'éducation. On n'est pas assez instruit, alors on va augmenter, on va investir dans l'éducation et ça va régler nos problèmes. C'est un problème de religion. Il y a trop de religions, il n'y en a pas assez, ou ça en prendrait une nouvelle. C'est un problème d'athéisme. C'est parce que c'est Dieu qui est le problème. Si on éliminait Dieu de notre société, ça irait beaucoup mieux. L'humain, c'est l'humain. L'humain a un problème. C'est la pauvreté. On cherche toutes sortes de cachettes où l'homme va se réfugier loin de Dieu en espérant, en fait, se soustraire à son regard, un peu comme Méphibosheth qui vit dans le lieu du désert. J'ai pas besoin de lui. Je veux pas me laisser trouver par lui. Mais si on regarde Méphibosheth d'un peu plus près, et si on s'approche de son visage, moi, plus je m'approche de son visage, plus je me vois à l'intérieur de lui. Plus j'ai l'impression de regarder dans un miroir parce que ses traits ressemblent tellement aux miens. Il me ressemble. En fait, quand je lis le texte, on se rend compte que le texte, le récit, il est construit, écrit pour qu'on puisse s'identifier à Méphibosheth et non pas à David, mais à Méphibosheth. On n'a pas le choix. Meph, c'est moi. Meph, c'est toi. Mef, c'est tous nous autres. Et le regarder, c'est se regarder comme dans un miroir. Notre père, le premier Adam, est mort et notre arrêt de mort est également signé. Maintenant, il y a un nouveau roi, Jésus, qui règne sur le trône du royaume de Dieu. Mais nous, comme Mef, nous boitons. notre démarche est boiteuse. Alors, pas toujours à cause de notre faute, parfois oui, mais bien souvent, nous vivons des répercussions de choix de d'autres personnes et qui ont décidé à notre place, mais qui nous marquent profondément. Voyez-vous, on a tous nos hauts et nos bas. Laissez-moi pas tout seul ce matin. On a tous nos hauts et nos bas. Hein, il y a des fois, on est fiers de nous, puis il y a d'autres fois, ouf, je m'en vais à l'eau de bord quelques instants. J'ai besoin de me retirer un peu. Oubliez-moi. L'apôtre Pierre a eu ses moments de bas aussi, où il tombe dans l'hypocrisie face à des gens, manque de sincérité devant des chrétiens. L'apôtre Paul qui dit qu'il va avoir une vive dispute avec un collègue, Barnabas, et finalement, ils vont se séparer chacun de leur côté. David qui commet l'adultère et qui tue le mari de sa maîtresse. Élie qui veut mourir parce qu'il pense qu'il est le seul à servir Dieu. Abraham qui s'en va en Égypte parce qu'il veut fuir une famine en Canaan alors qu'il n'a même pas consulté Dieu à ce sujet. Moïse qui va tuer un Égyptien, certain que tout le monde va comprendre qu'il est un homme de Dieu en faisant ça. Mef était perclus des deux pieds. Perclus, ça veut dire impotent, qui n'avait pas de capacité, qui était infirme, invalide, boiteux. Et nous le sommes tous. Parfois, c'est dans notre courage. On boite dans notre courage, on manque de courage. Parfois, c'est dans notre zèle, dans notre entrain, dans notre ferveur. Parfois, on boite dans notre patience. Il y en a-t-il qui boitent des fois dans leur patience? Oh, il y a quelques gens. Tous les autres, vous boitez dans quel domaine? Dans notre amour, dans notre poursuite du bien. Parfois, c'est dans nos relations à l'intérieur de notre propre maison. On boite, on parle d'une façon inappropriée envers notre épouse, envers notre mari. Et en plus, parmi tout ça, en plus de ça, il y a bon nombre parmi nous qui vivent avec cette espèce de sentiment de condamnation, de culpabilité à cause qu'on boite, à cause de nos chutes et de notre démarche boiteuse. Et là, on se tient loin de Dieu. Même en tant que chrétien, on marche loin de la table du roi. On n'avance plus avec cette douce communion de paix. On est troublé. Parfois, on peut même avoir peur de Dieu. On vit courbé, sans assurance. On se prive des privilèges et des bénédictions de notre position de chrétien. On n'expérimente plus la joie du salut. C'est un peu comme si notre vie chrétienne, elle est boiteuse, mais on se laisse entraîner dans cette culpabilité. Et l'ennemi de nos âmes qui vient nous, en plus, nous bombarder en disant « t'es pas bonne, t'es pas bon, tu sers à rien, t'es pas à la hauteur, tu mérites pas les bontés de Dieu. Va te cacher, que le monde sache pas qui tu es réellement. Va dans ta honte. » Et là, on est boiteux des deux pieds. On veut pas s'impliquer parce qu'on se dit « ah non, je suis pas à la hauteur. » Le plus triste, c'est pas de croire l'ennemi à ce sujet. Le plus triste, c'est de vivre loin de Dieu à cause de ça. De s'éloigner de la table du Seigneur. Vous vous demandez peut-être, comme Mef, est-ce que Dieu se soucie de moi? Alors que je suis assis ici à Châteauguay, à l'église Nouvelle Vie, est-ce que Dieu se soucie de moi? Peut-être quand tu es dans ton appartement ou que tu es dans ta chambre, est-ce que Dieu se soucie de moi? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il veut encore de moi malgré ma démarche boiteuse, avec ma liste de péchés? Est-ce que Dieu m'aime malgré mes chutes? Est-ce qu'il veut encore de moi? Est-ce qu'il n'est pas en colère contre moi et que si j'entre dans sa présence, je vais avoir le droit à un sermon? Mef s'est posé les mêmes questions par rapport à David. Mais pendant tout ce temps-là où Mephibosheth est à l'eau de bord, dans son petit appartement, isolé dans le désert, et qui se demande, est-ce que le roi me cherche pour me faire du mal? Est-ce que le roi va me trouver un jour et il va m'éliminer de la carte? Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant ce temps-là, David faisait effectivement des recherches pour trouver un fils de Saül à qui il pourrait faire du bien à cause de Jonathan. On aurait le goût de dire à Mef, hey Mef, aie pas peur, n'aie rien à craindre. Le roi te cherche, mais pas pour t'éliminer, il te cherche pour te faire du bien. Il veut faire quelque chose de bon envers toi à cause de ton père, à cause de l'alliance que David a fait avec ton père. Et ça, c'est la raison de la grâce. C'est pas à cause de Mephibosheth, c'est à cause de l'alliance que David avait fait avec son père Jonathan, une alliance à la vie, à la mort, où tous les deux s'étaient engagés. Je vais toujours faire du bien envers toi et ta famille. Peu importe, après ça, mes enfants, nos deux familles sont unies. On va toujours se défendre, se protéger, pourvoir aux besoins l'un de l'autre. Ils ont fait une alliance l'un envers l'autre dans ce sens-là. Et David voulait faire du bien aux enfants de Jonathan à cause de cette alliance. Jonathan, c'est le fils de Saül qui a fait cette alliance. J'espère que vous voyez ce que je vois aujourd'hui. Dieu te cherche activement et passionnément parce qu'il veut te faire du bien à cause de l'alliance que le Père a fait avec Jésus. Dieu veut te faire du bien, te cherche passionnément, activement, et tu n'es pas ici par hasard ce matin à entendre ce message. Je crois que Dieu m'a inspiré ce message parce que tu as besoin de l'entendre. Parce que Dieu te cherche passionnément. Écoutez bien ceci. Tu n'as rien à craindre. Le roi te cherche pour te faire du bien à cause de l'alliance entre lui et Jésus. Ce fils de l'homme qui a fait une alliance scellée par le sang qu'il a versé à la croix. Et c'était uniquement à cause de cette alliance. Ce n'est pas parce que tu es bon, parce que tu es bonne, parce que tu es fin, parce que tu es smart. Oui, tu es tout ça, là, je le sais. Là. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu veut te faire du bien. C'est à cause de l'alliance qu'il a fait entre Jésus et nous, à cause de cette alliance que Dieu veut faire du bien. Dieu cherche un homme qui ne marche pas toujours drette, qui n'est pas toujours, qui n'est pas toujours sa coche, qui ne marche pas toujours très droit, qui des fois même perd l'équilibre pour lui faire du bien. Il lui donne un futur. Dieu cherche un jeune qui a peut-être peur, qui est craintif par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi par rapport à sa propre vie. Dieu le cherche pour lui faire du bien. Dieu cherche une femme qui a peur, qui est découragée par son passé. Et il nous invite à sa table à cause de Jésus. L'histoire continue. Et finalement, avec l'aide d'un serviteur, David va trouver Meph. Un serviteur qui sait quelque chose. Il sait où il est. Je connais Mephibosheth. Il est à Lodebar. Je connais son adresse. Il demeure chez un prénommé Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Je sais où ce que c'est. Meph est dévoilé. Meph, il est découvert. Et le fugitif va être retrouvé. Et David l'a trouvé. Il lui fait dire de venir devant lui. Ce n'est pas une invitation. Il n'envoie pas un faire-part. Il envoie des soldats aller le chercher. C'est un ordre. C'est un ordre, rien de moins. Alors, pouvez-vous imaginer la réaction? Mettez-vous à la place de Meph, qui est rendu maintenant un adulte, et qui se lève un matin, et là, c'est son cauchemar qui se réalise. Lorsqu'il ouvre les volets, ce sont les soldats qui sont là, armés. Certains sont debout, d'autres sont sur leurs chevaux. Ils ont tout leur équipement. On s'en vient de chercher. Le roi David veut te voir. Et là, c'est son cauchemar qui se réalise. Ce n'est plus son rêve, là, c'est son cauchemar. Le roi m'a trouvé. J'ai eu beau me cacher pendant toutes ces années à Lodebar, dans un endroit désertique, mais il m'a trouvé. C'est sûr que c'est la mort. Ça ne vaut peut-être même pas la peine que je me rende chez le roi. C'est la mort à coup sûr. Sa colère va s'abattre sur moi. Je suis quand même un fils de Saül et je vais payer pour mes pères. Et lorsqu'il arrive devant David en boitant, il se laisse tomber sur son visage, il se prosterne contre terre et même dans son plaidoyer, il s'identifie à un chien mort. Tu peux difficilement t'identifier plus bas que ça. Là. Son estime de lui, là, c'est « je suis juste un chien mort ». Vous savez l'expression « ton chien est mort » ça vient de là, là. « Mon chien est mort ». En fait, je suis fini devant le roi. En fait, je me pose la question aujourd'hui, qui est digne de vraiment d'aller devant le roi? Qui est digne de la vie éternelle? Qui a jamais boité dans sa marche chrétienne? L'apôtre Paul même disait, « Misérable que je suis même pas digne d'être appelé un apôtre, je suis le premier des pécheurs, je suis le plus grand des pécheurs. » Nous méritons tous la colère du roi à cause de notre nature pécheresse et rebelle et notre démarche boiteuse. Mais de la même manière que la fuite n'aurait pas servi la cause de Meph, ta fuite ne te servira à rien non plus. Dieu nous invite à venir devant lui. Il nous ordonne de venir à lui. C'est Isaïe qui dit ceci, et c'est sur l'écran. « Venez, plaidons, dit Dieu, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire flamboyants, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Oui, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Sachez et comprenons bien que la fuite est aussi inutile que vaine. Dieu t'appelle à venir à lui parce que tu es la cible de sa grâce. Tu es l'objectif de pourquoi il te cherche. Nous sommes et tu es la cible de sa grâce et de son amour, comme on l'a chanté un peu plus tôt. Mais retournons maintenant au vrai héros de ce récit, de cette saga. Le vrai héros, ce n'est pas Meph. Le vrai héros, c'est David. David, qui est dans la salle du trône. Meph est à genoux, n'osant même pas lever les yeux vers le roi. Il dit, qui suis-je? Je suis un chien mort. Et là, toute la cour est réunie. La cour du roi est réunie. Les soldats sont là, armés jusqu'aux dents. Ses bodyguards sont là. Tout le monde est là. La cour, elle est présente là. Et Meph attend juste que d'entendre l'ordre d'exécution qui va mettre un terme à sa vie de fugitif. Et il se dit probablement, mais c'est ce que je mériterais après tout. Mais à son grand étonnement, le roi David se lève. Il s'approche de lui, et lorsqu'il est rendu devant Meph, il lui tend la main et il lui dit simplement, « N'aie pas peur, ne crains pas, relève ta tête, relève-toi, tu n'as rien à craindre, respire par le nez, reste calme, hein, reviens, calme-toi, reprends ton courage, n'aie pas peur, ne crains rien. » Et ça, c'est le message de la Bible. Ça, c'est le message que Dieu te donne aujourd'hui. Ne crains rien. C'est le message de Dieu pour toi. C'est le message de l'Évangile. N'aie pas peur. C'est le message de Jésus à ses disciples qui étaient apeurés dans la barque. N'ayez pas peur. C'est le message que l'ange a donné à Marie. Ne crains rien. Là, pour lui annoncer la naissance du Messie. C'est le message des anges aux bergers de Bethléem. N'aie pas peur. C'est le message de Dieu à tous ceux qui sont dépressifs, inquiets, déçus, en proie au découragement. N'aie pas peur. Ne crains pas. Et David, qui vient de dire ça, je peux imaginer Meph qui dit, « Mais pourquoi j'aurais pas peur? Tous les soldats sont armés ici, prêts à déclencher l'exécution. Pourquoi je n'aurais pas peur? » David continue, « Parce que je veux te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. » Et le nom de Jonathan signifie littéralement « celui que Dieu a donné. » Et j'espère que vous voyez ce que je vois. Mais dans Jean 3, 16, il est dit, « Car Dieu a tellement aimé, » et là tu peux mettre ton prénom, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus. » Moi, je ne peux pas dire autrement que tout ce que l'apôtre Paul a pu dire dans ses lettres, « Merci Seigneur, grâce soit rendue à Dieu pour son cadeau, pour son don indescriptible et ineffable, parce que c'est Jésus qui enlève notre condamnation. C'est Jésus qui nous fait sortir du lieu désertique. C'est Jésus qui pardonne toutes mes fautes et mes péchés. C'est à cause de Jésus, vous pouvez dire amen n'importe quand, c'est à cause de Jésus que Dieu nous fait du bien. C'est Jésus qui me délivre de la colère à venir. » Est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur? Parce que pour Jésus qui me délivre. David a maintenant relevé Mephibosheth. Mephibosheth se tient debout devant lui. Son cœur est rassuré. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Mais là, il entend une autre parole encore plus merveilleuse. Je ne dirais pas plus merveilleuse, mais c'est ça serait sur le Sunday. Je peux retourner à l'eau de bord. Maintenant que je sais que j'ai plus à craindre que le matin, je vais me réveiller, je vais ouvrir les volets, puis qu'ils vont être là pour me tuer. J'ai plus besoin. Non, il entend une autre parole. Il dit, maintenant, tu vas toujours manger à ma table. Tu ne retournes plus à l'eau de bord. Tu ne retournes plus dans le lieu désertique. Maintenant, tu vas rester au palais. Tu vas être traité comme un des fils du roi. Et à tous les jours, tu vas manger sur cette table magnifique. Pas juste à cause du matériau avec lequel elle est faite, mais à cause de ce qu'il y a dessus. L'abondance royale. Maintenant, avec lequel tu vas être nourri. Est-ce qu'on comprend bien que c'est un grand privilège que nous avons comme chrétiens, que nous pouvons manger à la table de Dieu, que nous pouvons manger à la table du roi? Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 55, 2. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme va se délecter de mes succulents. Et à chaque jour, je peux me nourrir et nous pouvons nous nourrir de ce qu'il y a de plus délicieux, de plus merveilleux, de plus succulent dans la présence de Dieu, parce que Dieu dresse une table devant nous, pour nous, et nous invite à prendre part de sa présence, de goûter de sa joie, de nous nourrir de son amour, de recevoir sa parole, sa paix, sa justice, sa gloire, sa protection, son amour, son amitié. Amen. Tout ça sont des aliments de choix et de grande qualité dans un monde où tout le monde est un petit peu en ce moment étourdi, découragé, dépressif. Ça va péter un jour, c'est sûr et certain. Nous, comme chrétiens, on vient dans la présence de Dieu, on reçoit de l'assurance, on reçoit de la paix, on reçoit son amour, on reçoit sa joie. Amen. C'est ce que Dieu nous donne à chaque jour. Et il nous dit, venez et mangez. Et nous ne s'en sommes toujours pas dignes. Mais c'est par sa grâce, c'est à cause de l'alliance nouvelle que Dieu et Jésus ont fait que tout cela nous est donné. C'est pas à cause de nos œuvres. C'est pas à cause de tes efforts. C'est pas à cause de tes mérites. C'est pas parce que tu donnes du sang à Croix-Rouge à tous les ans ou à tous les trois mois. C'est pas parce que tu es allé en mission. C'est pas parce que tu donnes, parce que tu es généreux. C'est pas à cause de tes œuvres, de tes mérites ou de tes efforts. C'est uniquement par grâce. Et Dieu nous restaure dans sa communion et on se délègue de ses mets succulents uniquement à cause de sa grâce extrême et ultime. J'invite les musiciens à revenir. Trois choses que la grâce a pourvues pour Meph et qui sont aussi accessibles pour toi. La grâce a pourvu à Meph un avenir à celui qui se voyait déjà mort. Lui a pourvu une vie éternelle. Lui a pourvu un avenir. Jésus a dit, « Celui qui vit et croit en moi vivra éternellement. » La grâce a pourvu à Meph un avenir à celui qui était déjà un homme mort. Mais la grâce a aussi pourvu pour lui une famille à celui qui vivait seul. Une famille, la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu. Meph s'est retrouvé à s'asseoir à la table comme les autres fils du roi. Il était maintenant un fils adopté. Dans la famille du roi, il pouvait lui aussi circuler dans les corridors du palais et avoir une fraternité, avoir des gens qui étaient ses frères et ses sœurs, des gens qui côtoyaient maintenant dans le palais royal, une famille à celui qui était seul. La grâce a finalement pourvu à une provision abondante à celui qui vivait dans le lieu sans nourriture, désertique. Pouvait maintenant manger à la table du roi, se lever le matin. Qu'est-ce que je vais manger? Non, il n'y a plus de qu'est-ce que je vais manger. C'est qu'est-ce que je vais manger un matin? C'est la table, le buffet, à tous les jours, matin, midi, soir. Il y a une abondance parce qu'il vit dans le palais du roi. Une provision abondante, un avenir, une famille, une provision. Alors, je t'invite. Oh, j'aimerais tellement nommer ton nom, ton prénom et t'appeler, comme David l'a fait avec Mephibosheth, t'appeler de la part de Dieu. Reçois son appel, réponds à son appel avec humilité, en recevant le don de sa grâce. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais une dernière chose, Une dernière chose en terminant ce message ce matin. Et après, on va chanter. Le texte se termine comme ceci. Neph habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Le récit se termine avec les mêmes mots qu'il a débuté. Neph, quand on le voit pour la première fois, il boite des deux pieds. Il vit à l'eau de bord, il boite des deux pieds. Il arrive à la table, il boite des deux pieds encore. Il vit dans le palais. Mais le texte nous dit que malgré ce changement radical dans sa vie, il était encore boiteux des deux pieds. Et ça, c'est le summum de la grâce extrême. Sa marche avant était boiteuse. Sa marche après l'était encore. Nous sommes sauvés par grâce, pas parce qu'on le mérite, mais nous demeurons sauvés par grâce également, et non parce qu'on fait des efforts. C'est jamais à cause de toi. It's not about me. C'est pas à cause de moi. C'est pas à propos de moi. Quels que soient mes efforts ou mes mérites, c'est toujours par sa grâce suprême et extrême. C'est la grâce dans toute sa gloire. Bien sûr qu'on s'efforce de marcher de mieux en mieux. On s'efforce d'aller de progrès en progrès. Je veux faire mieux qu'hier et moins bien que demain. Je veux toujours m'améliorer constamment. Je veux marcher le plus droit possible pour sa gloire. Mais je sais, et ma femme le sait aussi, que je boite encore. Que j'ai encore des j'ai manqué celle-là. J'ai pas été à la hauteur. Cette parole aurait pas dû sortir de ma bouche. Ce geste, j'aurais pas dû l'avoir. Cette pensée, j'aurais pas dû l'avoir non plus. Je m'efforce, mais n'oublions jamais que nous sommes toujours des boiteux, sauvés par la grâce extrême de Dieu, mais toujours le bienvenu à la table du roi. Alors, peu importe ta situation, peu importe ta démarche aujourd'hui ou celle d'hier, ou celle de cette semaine, viens à la table du roi, tu as toujours ta place, tu as toujours ton nom sur ta chaise, tu peux toujours venir t'asseoir dans la présence du roi, même si tu boites encore des deux pieds. Amen. Même si tu boites encore. Ne te laisse pas condamner par l'ennemi. Ne te laisse pas dire, « Ouais, mais t'es pas à la hauteur. Hein, mais quel chrétien tu es. Quelle chrétienne tu penses que t'es. Les chrétiens font pas ça. » Il était encore boiteux des deux pieds. Oh, on n'est pas fiers. On demande pardon à Dieu. On vient avec humilité et repentance recevoir son pardon parce qu'il l'a acquis pour nous à la croix. Et c'est pas une excuse pour dire, on peut faire ce qu'on veut d'abord. Non, non. Je veux marcher de mieux en mieux. Je veux m'améliorer constamment, mais par sa grâce, je suis bienvenu dans la présence de Dieu et c'est là que je vais retrouver mon élan et ma capacité à mieux marcher pour lui. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants alors qu'on termine ce message? Je crois profondément, c'était ma prière alors que je me préparais pour ce message, que le Saint-Esprit t'a attiré ici aujourd'hui. Dieu t'a attiré aujourd'hui. Tu n'es pas ici par hasard, juste parce que tu l'as décidé. C'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Parce que Dieu te cherche passionnément et activement parce qu'il veut te faire du bien à cause de l'alliance avec Jésus. Parce qu'il veut te sauver. Il veut te sortir de ton lieu de désert. Il veut te sortir de ta situation d'isolement pour t'attirer à lui, que tu puisses manger lui ou toi aussi, à sa table. Alors que nos yeux sont fermés, est-ce que tu peux prier avec moi dans ton cœur? Seigneur Jésus, merci pour l'alliance que tu as faite avec moi. Je te reçois maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur. Je ne le mérite pas, mais aujourd'hui, j'entends ta voix qui m'appelle par mon nom. C'est pour toi aujourd'hui. Je t'invite, je te reçois à mon palais, je te reçois dans ma présence et j'ai pour toi des plans de futur, un avenir et une espérance, des plans de paix pour toi, des plans de paix dans ton cœur, de joie, d'amour, de sérénité, d'assurance. Je veux te nourrir toujours à ma table. Alors, Seigneur, je viens devant toi, humblement. Je te reçois comme sauveur. Merci de pardonner tous mes péchés. Je veux vivre pour toi à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux également inviter tous ceux qui... Un deuxième appel à tous ceux qui ont déjà vécu dans le palais du roi, ont déjà vécu dans la présence de Dieu, ont déjà goûté et mangé à sa table. Mais pour une raison quelconque, tu t'es éloigné. Tu ne viens plus dans sa présence. Tu te sens mal, même coupable. Comment va-t-il m'accueillir? Je veux t'inviter à venir à lui aujourd'hui. À venir à lui parce qu'il veut te faire du bien à toi aussi. À cause de l'alliance, pas à cause de toi, mais à cause de l'alliance qu'il a fait avec Jésus, de revenir à lui. Et je veux tous nous inviter à venir quotidiennement dans la présence de Dieu, à manger à sa table, de sa parole, de sa présence. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît, alors qu'on termine? L'équipe de louanges va nous diriger dans ce chant. Et j'aimerais qu'on chante avec eux. Tu es ma force, dans l'abondance de ta grâce, tu me relèves. On chante ensemble.